Gloire à Dieu, que Seigneur Jésus vous bénisse, que nous puissions avec sa parole être fortifiés, édifiés ensemble. Je vais prendre un verset dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, verset 10, au sujet du règne. Ce sont les bénédictions prophétiques de Jacob à ses fils et... Il dit donc au chapitre 49, verset 8, « Judas recevra les hommages de tes frères, donc ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Surtout ce verset, donc ce dernier verset, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Alors le Shiloh, c'est un terme, voilà, ça a donné un nom, mais a priori, c'est une expression qui signifie celui à qui appartient. Celui à qui appartient le sceptre. Donc, d'ailleurs, il y a un très beau cantique qui est chanté donc, par une sœur en Christ, là, qu'on trouve voilà, sur le net. Ça s'appelle le Shiloh, justement. Elle s'appelle Gaëlle, cette sœur. C'est très, 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 très beau, ce cantique. Shiloh, celui à qui appartient le sceptre. Et heureusement que nous avons cette perspective, cette promesse en fait, de celui à qui appartient le sceptre, le bâton souverain. Le bâton souverain, celui qui va régner en toute souveraineté. Judas a été choisi et il y aura une lignée de rois qui vont avoir reçu le pouvoir, l'autorité du Seigneur lui-même. Et cette autorité ne pourra pas être contestée parce que c'est la succession des rois que Dieu a désigné en Juda. Et c'est ce qui va se produire à partir du roi David. David est celui qui reçoit le premier de la part, parce qu'auparavant il y avait... eu le roi Saül, mais Saül n'était pas de Juda. Saül était roi de Benjamin, la tribu de Benjamin, et il s'est montré totalement inadapté par rapport au règne de Dieu. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Il s'agit que ce soit le règne de Dieu parmi les hommes. Ce n'est pas la question d'avoir un homme qui nous dirige, c'est d'avoir Dieu lui-même qui est souverain parmi les hommes. Et en ce sens-là, Saül a failli. Par contre, David a été vraiment le roi qui a conduit le peuple avec des mains intelligentes, vraiment de la part de Dieu, rempli d'esprit de Dieu, dans l'amour de Dieu, soumis lui-même à son Seigneur, et qui a pu vraiment ainsi amener la présence de Dieu et l'autorité de sa parole parmi son peuple. Et les paroles et les cantiques de David demeurent, tous ces psaumes en fait qui exaltent non pas son propre expérience mais qui par avance annoncent l'expérience du Fils de Dieu, l'expérience du roi méprisé, souffrant, rejeté, mais que Dieu lui-même va élever, le bâton souverain. Et un jour, donc, le Shiloh, eh bien, ce sera celui qui, on peut dire, prendra toutes les manettes du pouvoir, si on peut parler de cette manière-là, mais à la gloire de Dieu, pour que le règne soit celui de Dieu et non celui de l'homme. Les hommes, donc, se confient mutuellement le pouvoir ou prennent le pouvoir, quelles que soient les formes hein, de gouvernement, que ce soit des rois, que ce soit des présidents. Voilà, les hommes, on peut dire, cherchent à imposer, on peut dire, leur pouvoir, ou à le recevoir de la part des autres, pouvoir l'exercer. Mais ce dont nous avons besoin, c'est du gouvernement de Dieu. Et d'ailleurs, initialement, Israël n'avait pas de roi, parce que c'est l'Éternel, tout simplement, qui était son roi, et Dieu a vu avec déplaisir que son peuple, à un moment donné, demandait un roi, à la manière des hommes. Et c'est pourquoi le premier des rois d'Israël n'était pas un bon roi, parce que c'était le roi que le peuple voulait, alors qu'il avait de ce fait-là, comme Dieu le dit à Samuel, « C'est moi qu'il rejette. » En demandant un roi à la manière des hommes, ils ont rejeté le Seigneur qui les gouvernait directement. Mais ensuite est apparu David, qui a, on peut dire, à qui a été redonnée la mission du gouvernement céleste à travers son action, sa prière, son zèle, son amour pour Dieu. Mais tout cela en prévision, en annonce de celui qui allait vraiment apporter la présence de Dieu, le règne de Dieu parmi les hommes, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui après avoir vécu en humilité, marché selon la sainteté de Dieu parmi les hommes, a donné sa vie en sacrifice et a été ensuite élevé au-dessus de tout nom pour gouverner le ciel et la terre à la gloire de Dieu le Père. Et c'est bien ce roi-là que nous acclamons, que nous glorifions pour d'abord nos propres vies et comme étant celui qui va régner sur le monde. Alors, le bâton souverain, le règne, l'autorité, la direction de toutes choses, elle est absolument nécessaire, puisque sinon le peuple tombe dans le désordre, dans l'incohérence, il n'y a plus de lien, et puis bon, tout se disloque, il n'y a plus de vie possible. Alors, ce n'est que violence, anarchie, lorsqu'il n'y a pas de gouvernement sur l'être humain. Alors, eh bien, cela se produira, le Seigneur établira son règne, mais justement pour qu'il n'y ait pas de confusion, que nous puissions comprendre ce qu'est le vrai règne de Dieu, il y a une autre figure du souverain dans l'Écriture, c'est tout simplement le berger. Le berger. Nous n'avons pas seulement un roi, nous avons un berger, ce que David, justement, était, hein, par nature. Il était berger et c'est le Seigneur, d'ailleurs, a choisi plusieurs fois des bergers pour conduire son peuple. Amos, prophète, était berger, mais pas seulement. Jacob était berger, Moïse était berger avant d'avoir été choisi pour pouvoir diriger le peuple, le faire sortir d'Égypte et l'amener au pays promis. Ce sont des bergers que le Seigneur a essentiellement donné à son peuple et lui-même s'est présenté comme étant le bon berger. Et maintenant, eh bien, le Seigneur a établi l'Église. Et l'Église a des conducteurs, mais l'Église n'a pas de roi. Il n'y a pas de roi dans l'Église, il n'y a que des bergers. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre s'adresse donc au conducteur de l'Église, au chapitre 5 de sa première épître, hein, versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le Seigneur a établi dans l'Église des bergers pour paître le troupeau, donner la nourriture, conduire le troupeau. Il est absolument nécessaire qu'il y ait des bergers. Nous avons recommandé à plusieurs le livre « Un berger médite le psaume 23 ». Plusieurs parmi vous ont pu le lire. C'est vraiment une analyse très pratique du psaume 23 par un pasteur donc évangélique, mais qui, avant d'être pasteur, a été berger. Et il expose vraiment le cas des brebis et cette absolue nécessité pour les brebis d'avoir un berger, d'être conduite, d'être soignée, d'être secourue, et c'est vraiment une méditation profonde qui nous fait comprendre finalement ce qu'est le Seigneur pour nous, mais ce que nous sommes nous aussi. Et je pense, ça me vient à l'esprit en particulier, c'est ce cas qu'il appelle, enfin, la brebis qui s'est retournée. Il arrive des situations où une brebis se retrouve sur le dos. Et à ce moment-là, elle ne peut strictement plus rien faire pour se redresser. Elle est condamnée. Elle est condamnée si le berger ne vient pas et la prenne et la rétablisse. Et il arrive des situations comme celle-là, dans nos vies, où tout à coup quelque chose arrive, nous bouscule et en quelque sorte nous mettre sur le dos, nous retourne, et impossible alors pour nous de nous rétablir. Et le Seigneur donc est le seul qui puisse, à travers aussi justement le ministère des bergers de l'Église, venir à notre secours et nous rendre une position dans laquelle nous allons pouvoir vivre. Sinon nous sommes condamnés à mourir. Et bien donc, c'est cela que le Seigneur ici présente. C'est une église locale qui est conduite, dirigée par non pas des rois, mais des bergers. Alors, jusqu'à ce que vienne le souverain berger, qui est de toute façon celui à qui appartient le troupeau, qui a donné sa vie pour ses brebis et qui va les conduire dans les pâturages de la vie éternelle. Alors, le Seigneur a donné des rois jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le sceptre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et puis, il a aussi maintenant donné des bergers pour son peuple. Alors les rois, la lignée des rois d'Israël, elle n'a pas été très très fidèle. Les rois de Juda, dès le lendemain de la vie de David avec Salomon, ça a commencé à ne plus aller... Salomon, il a eu un très beau règne avec toute la sagesse, l'intelligence, etc., qui lui avait été donné de la part de Dieu, mais c'était plus une intelligence politique. Et sur la fin de sa vie, il a montré les faiblesses par rapport à la foi, à la vie de sainteté. Et le peuple d'Israël s'est retrouvé, donc suite à cela, avec une contestation concernant la royauté. Et plutôt que d'avoir un seul roi, il s'est retrouvé avec deux rois, Roboam et Jéroboam, et donc deux lignées ainsi qui se sont développées parallèlement avec une dégradation de plus en plus importante finalement de la vie de justice, de la vie de sainteté, d'abord à commencer par les rois d'Israël et puis aussi ensuite les rois de Juda, ce qui a amené finalement la dislocation totale du royaume. Et l'attente pour les vrais croyants, les fidèles d'Israël, pour le peuple, le reste qui était qui attend, qui voulait la sainteté et la justice de Dieu, l'attente du Shiloh, l'attente du Messie, l'attente de celui qui allait rétablir le véritable règne de Dieu au milieu d'Israël. Mais donc, les rois ont failli. Et tant que le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas revenu, ne sera pas apparu des cieux pour régner de la part de Dieu le Père, eh bien, il n'y aura pas de règne de justice et de perfection sur cette terre. Pouvons-nous dire la même chose des bergers ? Les rois ont failli. Mais pouvons-nous dire la même chose des bergers ? Est-ce que les bergers ont failli ? Dans l'église, les modèles du troupeau. Alors moi je dirais que oui, certains bergers ont failli, et en particulier ils ont failli peut-être parce qu'ils ont désiré être des rois. Et quand on désire être un roi, on n'est pas à la place que le Seigneur veut et rend les choses possibles à sa gloire. Peut-être. Alors des bergers ont failli. Mais, quand même, beaucoup de bergers, des multitudes de bergers, sont restés témoins des souffrances de Christ. Et je peux dire qu'il y a des millions qui se donnent pour le troupeau ou les petits troupeaux. On peut dire, si on prend l'église locale comme un troupeau, pour les troupeaux donc du Seigneur. Ils se sont engagés pleinement, et parce qu'ils connaissent le bon berger, parce que le berger a déjà donné l'exemple, ils marchent sur ses traces et ils prennent véritablement soin de l'église, du troupeau du Seigneur. Et cela depuis l'origine jusqu'à maintenant, il y a eu une multitude de bons bergers. Et je suis personnellement désolé lorsque j'entends des discours que, comme si, on peut dire, il n'y avait plus possibilité d'avoir des églises fidèles, des églises qui marchent dans la vérité, que pour être un vrai chrétien, il fallait être en quelque sorte en dehors de l'église, en dehors du troupeau. Comme si là, simplement dans notre relation personnelle avec le Seigneur, nous allons pouvoir marcher dans la justice et dans la sainteté. C'est faux. C'est faux. L'Église est constituée par des églises locales, par des troupeaux, on peut dire, de brebis qui s'assemblent et qui marchent ensemble dans l'obéissance à la parole de Dieu et sur lesquelles le Seigneur établit de différentes façons, avec de différentes formes. On peut discuter sur la manière, la direction unique ou collégiale de l'Église, etc. Mais où il y a des responsables, des hommes en particulier, qui ont reçu cette charge de veiller sur les âmes et de les enseigner et de les conduire dans une communion, dans des actions, dans une édification commune, dans un travail commun à la gloire de Dieu. Donc, il y a ce que Paul recommandait à Timothée, Timothée chapitre 6, versets 11 à 16, qui concerne bien sûr tout chrétien, mais qui s'adresse ici plus particulièrement à quelqu'un qui a reçu une responsabilité pour conduire l'Église. Eh bien, il y a beaucoup de responsables, et encore aujourd'hui, qui ont sincèrement suivi les recommandations de l'apôtre que nous trouvons ici. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire les disputes, etc., l'amour de l'argent, toutes ces choses-là. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Oui, Timothée était un pasteur et l'apôtre lui adresse ses recommandations. Eh bien, aujourd'hui encore, beaucoup de responsables sont fidèles à ces recommandations et marchent dans la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur et combattent le bon combat pour la vie éternelle, pour eux-mêmes et pour les brebis qui leur ont été confiées. Alors bien sûr, priez pour eux, priez pour tous les responsables d'assemblée, priez pour les anciens, priez. Mais sachez que jusqu'à la fin, il y aura des pasteurs sur l'Église, pour paître l'Église du Seigneur, et nous rendons gloire à Dieu de cela. Dans le service comme dans le règne, de toute façon, nous sommes associés à Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ qui compte. Et je vous lis encore donc dans Hébreux chapitre 7, versets 26 à 28, au sujet de Jésus. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Parce qu'il n'est pas seulement roi, il n'est pas seulement berger, il est sacrificateur, ayant donné sa vie pour faire la médiation entre nous et le Père. Un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Jésus-Christ a été établi comme souverain sacrificateur, celui qui est auprès du Père et qui intercède pour nous. En étant saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Caractéristique de Jésus, c'est l'innocence. Saint, innocent. Et ce n'est pas une innocence par défaut, c'est une innocence positive, active. Jésus a gardé son innocence face à l'assaut du péché. On peut dire que tant que voilà, quelqu'un est innocent, il ne connaît pas le mal, les enfants, dans certains contextes, on peut dire, nous pouvons dire, nous restons innocents parce que le mal ne nous a pas encore rejoints, ne nous a pas encore visités. Et voilà, les enfants, la plupart du temps, vivent dans un contexte où ils sont protégés, bien gardés, instruits, ils sont innocents. Et puis le mal, le péché se présente, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, par la nature des choses, le mal vient les visiter, le mal entre, pénètre en eux, ils ne sont plus à ce moment-là, ils perdent leur innocence. C'est notre cas à tous. Et dans bien des situations, encore en étant adultes parfois, nous sommes dans une certaine innocence et puis le mal vient et nous perdons notre innocence. Eh bien, Jésus, lui, a gardé son innocence face à tous les assauts du mal. Face à tous les assauts du péché, Jésus a gardé et resté dans l'innocence. Systématiquement, le mal était renvoyé, en quelque sorte, en dehors de lui. Il ne s'est pas laissé corrompre en lui-même. Dans ses affections, dans ses pensées, dans ses réactions, Jésus n'a jamais été corrompu par le mal. Il a donné immédiatement, au début de son ministère, un sermon, le sermon sur la montagne, dans lequel il donne les lois du royaume. Eh bien, ce sermon qui a inauguré son enseignement, ne s'est pas resté simplement des mots, des paroles. Ce n'est pas qu'un discours, c'est ce que lui a vécu. Et de ce fait, en quelque sorte, on peut dire que son innocence s'est muée en perfection. Le Fils qui est parfait pour l'éternité. Nous sommes, nous, pécheurs, prisonniers de la corruption, et s'il n'y avait son sacrifice pour nous laver, ben nous resterions prisonniers de notre corruption et personne ne pourrait vivre dans ce caractère d'innocence. Nous serions systématiquement remplis de toutes les corruptions du péché. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifié, vous avez été justifié par l'Esprit de notre Dieu, dit l'apôtre. Et pour tous ceux qui ont été lavés et sanctifiés, revient par la foi au Seigneur, par la purification, par la présence du Saint-Esprit, revient ce temps de l'innocence. Nous pouvons vraiment à nouveau, vous pouvez marcher à nouveau dans le caractère de la sainteté, le caractère de l'innocence de Jésus-Christ. Vous pouvez vraiment vivre selon les pensées, les réactions de Dieu, dans la pureté des intentions, et non pas dans la tricherie, en quelque sorte, des pensées humaines, ou le cynisme, etc., toutes ces choses qui s'installent et qui règlent les relations des êtres humains. Vous pouvez vivre en toute transparence, en toute innocence devant les hommes et devant le Seigneur. Donc, nous pouvons vraiment bénir le Seigneur Jésus-Christ parce qu'à travers lui, le message est totalement complet. Il y a le règne de Dieu sur les hommes, mais il y a la perfection qui est donnée à chacun des sujets. Et c'est pour cela que le Seigneur dit que si nous persévérons, nous régnerons avec lui, ayant marché dans ses voies, à sa manière, suivant son exemple, eh bien, nous serons aptes également à gouverner. Gouverner non pas selon les principes de l'homme, de la capacité humaine, mais selon les principes de la justice de Dieu. À tel point que l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Vous voyez à quel point le Seigneur va nous donner une capacité que nous n'avons pas encore, mais qui peut déjà se manifester d'ailleurs dans le temps présent, puisque Paul rapporte ça au fait que il faudrait que dans les situations un peu conflictuelles entre les enfants de Dieu, il n'y ait pas des procès devant les tribunaux humains, mais qu'un homme sage du milieu de l'Église puisse prononcer entre des frères qui ont un différend. Donc, ça veut dire que cette sagesse, cette justice, cette compréhension de la justice de Dieu peut être déjà vraiment bien implanté dans dans la vie du croyant, et puis jusqu'au jour où, ayant été totalement sanctifié et associé au règne de Jésus-Christ, nous serons amenés même à juger les anges. Les saints jugeront le monde qui rejette le Seigneur, le monde qui rejette ses enfants, ses fidèles, eh bien, seront associés au règne éternel du Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Amen.